RMC.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Le Super Football Show.
Verratti pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, en effet, avec Jérôme Rotten, Daniel Riolo, avec Mousse de Paris United, avec Alexandre Coupé de Paris United. On va voir avec Grégory Coupé, d'ailleurs, Alexandre.
Non. Ah, pourtant, il y a un petit air de ressemblance.
Pas le même nom, ni le niveau.
De profil, là.
Ni le niveau. C'est bien, t'es lucide. Bravo. Alors, les gars, on va accueillir Mathieu au 32-16. Il y a beaucoup de monde qui veut dialoguer avec vous et débattre. Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu.
Salut, les amis.
Bonsoir, salut, Mathieu. Salut, Mathieu, on t'écoute.
Bah, félicitations déjà pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est fort.
Merci.
Moi je suis supporter de l'AS Monaco, je voulais juste réagir au débat de tout à l'heure en disant, j'ai entendu que les médias en France essayaient un petit peu de mettre des bâtons dans les roues au PSG, c'est ce que j'ai entendu. L'équipe, tout ça. Moi je trouve que quand même le PSG est bien mis en avant au détriment des autres clubs, c'est normal, parce que les autres clubs n'ont pas les moyens du PSG et qu'aujourd'hui le PSG c'est la capitale, c'est riche. Et ça doit gagner la Ligue des Champions avec le budget qu'ils ont et le projet de jeu, etc. Ce n'est pas parce qu'on critique un club qu'on essaie de le descendre. Au contraire, je pense que c'est plus pour le faire remonter et pour trouver les lacunes qu'ils ont au moment où il y a des gros matchs de Ligue des Champions comme ça. Daniel, toi, tu as parlé du PSG en disant que contre le Real Madrid, c'était pas possible pour l'instant parce que si et parce que là. Pour moi, tu descends pas le PSG en disant ça. Tu le défends. En essayant de faire remonter, faire remonter, comme tu as envie de le voir remonter, parce que je sais que t'as un petit pincement pour le PSG, comme Jérôme et comme vous les gars. Et pour moi, c'est important de parler des problèmes fondamentaux dans un club. Pour moi, le PSG aujourd'hui, c'est un club qui a des problèmes. Même si tout est tout beau tout rose en championnat.
Et ça, Mathieu. Donc moi, ça, je n'en ai jamais parlé. C'est ça. Moi, j'ai jamais évoqué depuis des années la désorganisation, les compétences ou incompétences, les problèmes et tout.
Il te dit l'inverse.
Mais non, il me reproche de défendre le PSG.
Au contraire, je suis en train de te dire.
Pardon si j'ai pas compris.
Daniel, je suis en train de te dire justement que toi.
Il dit que c'est bien de critiquer le Paris Saint-Germain, qu'ils ont raison de critiquer et que ça peut faire améliorer. C'est bien ça, Mathieu.
Non, mais Mathieu, en fait, le thème n'était pas là.
C'est même pas le débat.
Parce que quand tu le critiques et tout, très bien, ce qu'eux disent dans le livre et ce que moi j'ai également souvent essayé de mettre en avant, mais je l'avoue, je ne peux jamais aller au bout parce que c'est bien un des seuls domaines où on n'a pas une liberté totale, c'est que certains médias fassent un calcul. Voilà. Un calcul de politique éditoriale, ça se fait de plus en plus. Ça s'appelle du storytelling.
Tout à fait.
C'est quelque chose qui existe, que ce soit au niveau politique, au niveau sportif, dans la façon de traiter une actualité, tu angles et ça n'est pas toujours vrai. Pour l'équipe de France, effectivement, la plupart des médias ont intérêt à ce que l'équipe de France aille loin. Dans le cas du PSG, c'est différent. D'abord, moi, je me suis toujours mis en dehors de ça parce que je ne comprends pas qu'un journaliste fasse un calcul en disant on a intérêt ou on n'a pas intérêt. On a intérêt à rien du tout, nous. Mais la plupart visent l'intérêt parce qu'il y a des ventes. Et peut-être que moi, de façon naïve, je devrais peut-être faire attention à ça parce qu'on a des audiences aussi. J'en sais rien, mais en tout cas, bon, écoute, j'ai jamais fait vraiment gaffe. Mais quand tu fais ce genre de choses-là, il faut le savoir, et ça me rappelle un propos qui date un peu de Charles Biétry en 91, au moment où Canal doit reprendre le PSG. Ils savent pas trop s'ils vont y aller ou pas. Bernard Tapie pousse le PSG pour qu'il le fasse absolument, et dit. Après tout, c'est effectivement à Paris qu'il faut qu'on aille et pas dans un autre club. Parce qu'au début, c'était demandé, est-ce qu'on peut prendre un autre club? Il dit, c'est une aberration totale. Puisque de toute façon, t'as 10 millions de personnes dans la population française qui vit en région parisienne. Ceux-là, on va dire qu'en majorité, on visera à ce qu'ils soutiennent le PSG. Et de toute façon, la tradition historique dans ce pays, c'est que les 50 autres millions en dehors voudront sa mort. Donc de toute façon, ce sera ou pour ou contre, mais jamais indifférent. Là-dessus, on peut bâtir un gros business.
Tout à fait.
Voilà. Une fois que tu comprends ça, l'histoire de personne ne viendra se plaindre du traitement, comment dire.
Oui,
c'est pas se plaindre du traitement médiatique, c'est encore une fois, c'est des calculs que tu peux faire. Le calcul, c'est t'as voulu me donner une interview ou non, je vais te flinguer. C'est oui, t'as voulu faire ci ou ça, machin. Et comme tu sais que c'est le PSG qui va te faire vendre le plus de journaux avec l'OM, mais l'OM, mine de rien, le supporter de l'OM, la plupart du temps, il va lire la Provence, il va être déjà dans ses médias, il va être déjà dans ses médias locaux. À Paris, ça n'existe pas. À Paris, ça n'existe pas.
En fait, si on ne comprend pas
toute la structure complète et le contexte, c'est pas facile à appréhender, je vous assure. Mais il n'empêche que c'est une réalité.
Mathieu, pour répondre à Mathieu. Juste pour compléter ce que vient de dire Daniel, nous on n'est pas contre la critique du tout, hein. Bien au contraire, hein. Quand un match et le match retour du Paris Saint-Germain au Parc face au Real Madrid, il est catastrophique. Ils ont raison le lendemain quand ils titrent inqualifiable. On peut qu'être d'accord avec eux. Ça c'est pas un souci. On est bien d'accord. Maintenant, je vais juste te donner un exemple. Ce que disait Daniel sur la connivence, c'est-à-dire que si tu nous donnes des infos, on va être gentil avec toi. Bah ça c'est exactement ce qui s'est passé avec Unai Emery. Il a été contacté au début quand il est arrivé. On lui a fait comprendre que si il donnait les compositions, les secrets de vestiaire, etc. Eh ben il y aurait des papiers sympas sur Unai Emery. Son frère, il a refusé parce qu'il est honnête,
ils l'ont flingué dès le début.
Et donc ils l'ont flingué avant même qu'il commence.
Le traitement Ben Arfa, c'est la même chose. C'est dégueulasse, le traitement Ben Arfa.
Depuis une heure, en fait, on se concentre quasiment, c'est un peu dommage, sur uniquement le traitement médiatique du Paris Saint-Germain.
On peut parler de ce que vous voulez, Gilbert.
Alors moi, j'ai une question à vous poser concrète.
Dites-moi.
Vous faites des constats, vous les étayez, voilà, c'est très détaillé dans le livre sur plein de sujets. Mais est-ce que vous avez aussi des propositions? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez aussi des pistes pour que les choses aillent mieux, Alexandre?
C'est-à-dire, à part que je devienne président du PSG.
Et Jérôme Rotten, directeur sportif,
allez,
bien évidemment.
Allez, au bout de la démarche, c'est bien joli de dénoncer. Bouge,
si je l'embauche. Après,
c'est bien
après,
joli de dénoncer et de critiquer, mais
je vais vous le dire en deux mots et je laisse parler à Alex.
Est-ce que tu parles beaucoup, Mousse, je trouve, hein.
Un dernier mot et je me tais. Nous, ce qu'on voudrait en gros, on voudrait le fonctionnement qu'il y a à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que tous les employés du club, du jardinier, en passant par la femme de ménage, le comptable,
le
jusqu'au président. Non, je dis pas. On veut que ça se passe comme
bravo
ça.
Bravo Jean-Michel.
On veut que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tous les gens au club soient concernés et qu'ils tirent tous dans le même sens. Si vous prenez une décision au club pour faire avancer votre propre carrière, ça n'apporte rien au Paris Saint-Germain. Ça apporte à vous sur votre CV, vous êtes passé directeur commercial, etc., etc. Mais pour le club, alors rien.
Oui, ouais, c'est vrai.
Bah, Alexandre, c'est tout. C'est uniquement le projet, c'est uniquement ça et rien d'autre.
Bon, ça tout résumé, c'est-à-dire qu'il manque effectivement une culture d'entreprise au PSG et au LAS, par exemple, qui est souvent accusé de sectarisme, parfois à raison, parfois à tort.
Alors, par moins, moi.
Oui. Et il a au moins lui compris que
pour le fonctionnement de son club,
il a créé une véritable institution, je
critique pas ça.
Et au PSG, c'est quelque chose qui manque parce qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur du club qui malheureusement.
Lui, par contre, il réagit aux articles un peu tendancieux. Il n'hésite pas. C'est-à-dire qu'il lit l'article. La minute après, il y a un tweet chez nous. On laisse passer tout,
aux supporters,
toutes les fake news, tout, on laisse tout passer et on ne dit jamais rien.
Il n'y
a personne qui s'oppose et qui dit voilà, non, c'est pas normal, etc. Je t'en prie, Alexandre.
Oui, donc c'est ce que je disais, il y a un manque de culture d'entreprise qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de salariés au club qui ne connaissent pas l'histoire du club, qui ne connaissent même pas l'histoire du foot. Et par rapport à ça, comment tu veux rivaliser contre les meilleurs clubs européens?
Alors, en fait, là-dessus, moi, je l'avais noté quand je jouais, parce que forcément, quand tu joues et que t'aimes ce club et que t'as envie qu'il grandisse, ce club, encore plus à l'époque, je peux te dire, parce qu'il y a eu des saisons très compliquées.
Pas que
des saisons très compliquées, mais il y en a eu quelques-unes. Mais surtout deux. Mais tu t'aperçois que déjà, il y a un gros problème, c'est que l'effectif professionnel, il est coupé du club. Ouais. Parce que les salariés, comme tu dis, les secrétaires... Et puis
pas tous les joueurs.
Non.
Cavani, par exemple, il est très proche du petit personnel.
Non, mais moi, je te parle même pas de ça.
Je te parle même pas de ça.
Je te parle de comment le club est structuré. Quand t'as le siège du club, qui est sur Paris, était au Parc des Princes, qui est aujourd'hui à Boulogne.
D'accord.
Et que t'as l'effectif professionnel qui, quotidiennement, donc, s'entraîne au camp des loges, qui vient jamais à la factory, jamais, je te le dis, sauf pour faire des interviews.
Opérations commerciales,
et encore,
etc.
C'est très rare.
C'est vrai, voilà. T'as raison.
T'es coupé du club. Et tu ne connais pas tout, comme tu dis, le petit personnel.
Bien sûr.
Tout avec tout le respect que j'ai. Et il y a des joueurs qui font l'effort, si tu veux. Et là, je suis d'accord, tu mets en avant Cavani.
Je peux citer Javier Pastore, Angel Di Maria.
Exactement.
Je peux citer Edinson Cavani.
Qui ont une autre culture.
Hein.
Qui ont une autre culture.
Exactement.
Et qui sont passés aussi par des grands clubs et qui ont l'habitude de ça et qui pensent que, à juste titre, qui pensent que c'est aussi le début de créer quelque chose ensemble.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment.
Et moi, je me battais avec d'autres à l'époque, mais on n'était pas assez là-dessus. Si tu veux, on disait, mais c'est pas possible, quoi. Il y a des gens, il y a des joueurs qui ne connaissent pas et qui ont jamais vu celle qui va te faire les salaires, par exemple. Tu vois, les fiches de paye. C'est pas normal.
C'est pas normal.
Je vote avec celle qui fait les fiches de paye.
Vaut mieux.
On revient au manque de culture d'entreprise.
C'est pour ça que tous les matchs, j'y allais.
Tu vois, Jérôme, il y a certains joueurs au centre Redo, au camp des loges, tu vois, parce que c'est vrai qu'ils y sont tous les jours. Eux, vraiment, avec le petit personnel, ils s'arrêtent.
Exactement.
Quand ils voient une femme de ménage passer et que lui boit un café, Edinson appelle, assis-toi, bois un café, on discute, c'est quoi ton histoire, d'où tu viens, etc. Il s'intéresse aux gens. C'est pas le seul. Unai Emery, il essaye d'instaurer ça au PSG. Avant le huitième de retour final. Il explique à tous les employés, tous les jours, il allait voir les employés, il disait, voilà, c'est bientôt le huitième, il faut vraiment que vous soyez, même si vous n'êtes pas sur le terrain, mais il faut être derrière Paris, il faut être derrière le Paris Saint-Germain. C'est tous ensemble qu'on va le faire.
C'est avant qu'il faut le faire.
C'est pas juste 11 joueurs professionnels.
Pour conclure, les gars, sur le bouquin, il y a marqué épisode 1, ça veut dire qu'il y aura un épisode 2.
Il y aura un épisode 2
qui sortira en novembre.
Et qui partira de la défaite au Parc des Princes du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, l'élimination.
Voilà. Bon, très bien. Merci d'être venu.
Merci. J'ai pas répondu à Daniel sur les notes.
Ah oui.
C'est pas grave.
Vas-y. Daniel, alors c'est l'histoire pour ceux qui arrivent. Toi, t'as déjà constaté que si dans les notations de joueurs,
déjà, il y avait des arrangements. Avant que je m'énerve,
minimum en dessous de 8, de toute façon.
Mais quand t'entends Daniel qui balance, et c'est pas la première fois qu'il me balance des petits pics comme ça, il pense que moi j'ai été aidé et je faisais le maximum, si tu veux, pour être bien avec certains journalistes, dont Damien Degore.
Ah non, j'ai pas dit que tu faisais tout pour être bien.
Et que donc lui me surnotait. Alors écoute, concernant Damien, c'est vrai que c'était un vrai problème parce que je me suis fâché. Mais combien de fois? Parce que ce journal...
Damien, tu t'entendais bien avec lui.
Exact. Mais oui, mais on s'est connus à Caen, ce que je veux dire. On s'est connus bien avant. Donc, quand tu le recroises 5-6 ans après, même 8 ans après, qu'est-ce que tu veux? Il suit le Paris Saint-Germain, Je vais pas passer devant lui sans le calculer. Donc, ça pouvait arriver parce que j'avais l'impression, et c'est pas une impression, souvent je lui reprochais, que en fait, quand il me notait, à l'époque, parce que tous les joueurs font attention aux notes, hein, quoi que tu dises,
alors,
des joueurs qui disent, moi j'ouvre pas les journaux et tout, mais ça c'est des conneries incroyables, parce que tout le monde te le répète. Donc tu fais attention aux notes, bien sûr, tout le monde fait attention aux notes.
Ça et se
donc...
confirme, il y en a même que ça peut mettre en dépression.
Mais exactement. Et c'est vrai que quand tu apprenais ta note, et ben moi j'avais l'impression que quand c'était Damien, et heureusement des fois il le faisait pas tout le temps, j'étais sous-noté. Donc j'allais le voir, je lui disais, Daniel.
Et je vais 8 pas te sortir. 9, tu voulais pas, tu voulais non, 9, et t'avais que 8.
C'est pas vrai, mais je vais pas te ressortir les notes de l'époque.
Donc t'allais t'expliquer avec lui.
Mais ça m'est arrivé de me fâcher pendant un mois ou deux. Et il essayait de m'appeler, je répondais pas, je l'envoyais chier. Tu vois, juste pour des affaires comme ça. Et donc, pour te dire que, bien sûr, qu'il y a des joueurs, ce que je veux dire, qui sont assez malins, et il y en a encore beaucoup. Le meilleur exemple, ce que je veux dire, et pourtant, des fois il intervient, dans notre émission, hein, quand je vois les notes du PSG, et on en revient toujours pareil sur le journal de l'équipe. Quand je vois les notes de ce match sur le Real Madrid-PSG, le match aller, le Real renverse le match à la 80e minute, alors qu'ils sont quand même mal embarqués. Et non, quand je vois la différence
même
des notes...
Même à Marca, ils ont souligné que le PSG avait très bien joué.
Entre le Real Madrid et surtout certains joueurs du Real Madrid et les notes de certains joueurs parisiens, là, je me pose des questions.
Après, les notes, c'est subjectif. Hein,
non.
Tu
peux pas te tromper.
Non. C'est cadeau.
Une dernière chose sur un
joueur qui a été moyen, que tu lui mettes 5 ou 6, moi, ça me choque pas. Mais quand tu vois qu'il y a un joueur quand même a été cohérent et que tu le mettrais 6 et qu'il prend 3 ou 4, là il y a à se poser des questions.
6 c'est une bonne note ou pas? C'est moyen.
6, t'as fait un match très très correct. Voilà.
Ah bah pourtant 6,
ce qui n'est pas le cas de Karim Benzema sur le match aller Real Madrid,
Paris Saint-Germain, qui méritait certainement pas 6. Satisfaisant.
Bon, vous êtes quand même bien.
C'est un match satisfaisant. Je vais dire une dernière chose, juste par rapport à ça.
Obsédé par l'équipe quand même, Moussa.
Pardon ?
T'es obsédé par l'équipe, toi ?
Bah, c'est le seul quotidien aujourd'hui.
Mais je vais t'obséder par
le Parisien.
Le Parisien, c'est un journal sportif, le Parisien. C'est un journal sportif.
Tiens,
on peut en parler du traitement de
RMC, RMCsport.fr, il y a plein de sites.
Mais dans le Parisien, vous voulez qu'on parle de quoi ? De l'article sur les clans ? Qu'a raillé Rabiot le lendemain sur Instagram en disant attention, je suis avec un Brésilien.
Ouais.
C'est ça un journal sportif donc.
Alors, en fait, donc moi je dois être le comité de vigilance des médias en fait au final.
Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça.
C'est dommage. Bon, bref.
On pourrait parler du Parisien parce que moi j'ai une bonne anecdote. C'est un jour au bord du terrain.
Non, c'est moi qui raconte la meilleure.
Non,
Louis
non,
c'est,
non, celle-là,
non,
mais
Louis,
non, mais d'accord.
Non, c'est moi.
Mais non,
non
c'est après,
moi.
C'est toi.
Non, c'est moi.
Mais moi, j'en ai une, mon concernant.
Je connais
vu qu'on se faisait fracasser à l'époque, tout le temps, et tout ça, le Parisien, là. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas possible.
Ah, tu crois
que les mecs, certains journalistes, en plus, ils osent être au bord du terrain, regarder avec le sourire et tout, et tu te dis, mais attends, ils se foutent de notre gueule, ceux-là. Donc. Bah, à 30 mètres, un jour, j'étais sur le côté, je me tirais, j'étais avec les stewards, je rigolais, je dis, putain, tu penses que je peux te l'attraper dans la tête, lui? Bah, j'ai mis une frappe tendue, et bah, 2-3 mètres, j'étais très précis. Et la lunette, elle a fait bam!
Pied gauche?
Et
pied gauche, j'ai envie de dire encore aujourd'hui?
Non, franchement, non, je suis plus fier de mon geste-là que des articles de ce mec-là à l'époque.
Bon, je vois, rajouter une dernière chose,
c'est mon anecdote. Non, Mus, t'as rajouté trop de trucs. Ça suffit. Un jour, il y a un vigile du PSG qui vient voir un journaliste du Parisien. Très sympa, le journaliste. Et il dit, toi, viens avec moi. Donc le mec, il dit, pire, avec ce qu'il veut, lui, il a peur. Le vigile, super impressionnant.
C'était le Yogo, là.
Il le chope.
Tu lui disais bonjour, et t'as l'impression qu'il allait te mettre une tarte.
Il le tire par le bras.
Tu m'as dit bonjour. Ouais, mais c'était juste bonjour, quoi. Ferme ta gueule.
Il le tire par le bras, et il l'amène dans le vestiaire. Et là, il y avait Louis, qui était là, qui est en train de prendre sa douche. Le gars, il l'attend à côté. Et bon, et Louis, il sort du.
Il sort de la douche à poil, serviette sur l'épaule.
Il le regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Fait, bah, je sais pas, c'est l'autre, là, qui m'a ramené, là. Et là, Louis se tourne vers Vigile, il dit, mais t'es con, toi? Je t'ai demandé le Parisien, mais le journal, pas le journaliste, là.
Un sketch des
guignols. Elle est géniale celle-là, non?
Bah ouais.
Messieurs, merci d'être venus.
Merci à vous.
Et à très bientôt dans l'after. Dans quelques instants, nous, on va parler d'Angleterre, de l'Olympique de Marseille, parce qu'il n'y a pas que le PSG dans la vie. Messieurs de Paris United, il y a aussi l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe la semaine prochaine sur RMC. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Daniel Riolo est là ce soir, Jérôme Roten également. On va accueillir Philippe Auclair, messieurs, dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais quand même faire un petit point résultat parce qu'il y avait des matchs ce soir. Alors, déjà, un match en Turquie qui a été stoppé.
Ah oui, il paraît que c'est très grave ce qui s'est passé.
Ouais, entre Fenerbahçe et Beşiktaş, demi-finale de Coupe de Turquie ce soir, match arrêté. Parce que le coach de Beşiktaş a reçu un siège du stade sur la tête. Donc un siège qui a été décelé et balancé. Voilà, donc match malheureusement arrêté. On espère que tout ira bien pour le coach de Beşiktaş. Sinon, Chelsea jouait ce soir, on va en parler avec Philippe. Chelsea a gagné à Burnley 2-1. Il y avait Giroud notamment dans ce match. Leicester Southampton 0-0. Et puis en Espagne, vous savez qu'à Marseille, on suit de près quand même ce qui se passe avec l'Atlético.
Ouais, normal.
Adversaire potentiel de l'OM en finale. Et ben l'Atlético a perdu ce soir 3-0 quand même à la Real Sociedad, la meilleure défense de la Liga.
C'est pas dramatique, de toute façon, ils seront sûrs d'être dans les 4.
Oui. Bon, enfin bon.
C'est comme le Real,
de voir qu'ils sont capables de perdre.
Ouais, voilà, ça peut donner des idées.
Tu sais, c'est comme le Real.
Oui, le Real hier soir qui fait un partout.
Ouais, qui égalise à la fin. Et on était là. Ils sont en totale gestion. Du moins, ils préparent les gros matchs qui vont arriver.
Philippe Auclair, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous.
J'ai juste un dernier petit résultat quand même important, la qualification en finale de Coupe du Portugal du Sporting, qui ce soir a battu Porto après prolongation 1-0. Donc voilà, le Sporting qui élimine Porto, Porto qui domine le foot portugais, donc là c'est le Sporting qui va en finale de Coupe. Tu veux nous dire un mot de Chelsea, Philippe, avant qu'on parle d'Arsenal ou...
Oui, enfin, c'était intéressant. Il y avait plusieurs choses intéressantes, même si le match lui-même, comme ces matchs de fin de saison, ben, c'est jamais grandiose, c'est moins qu'on puisse dire, même si Burnley avait la carotte en tout cas de passer au-dessus d'Arsenal en cas de victoire. Ce qui n'est quand même pas rien de passer en à la sixième place avec un match de jeu en plus. Là, il reste donc à deux longueurs des Gunners, qui, on le rappelle, n'ont toujours pas gagné le moindre point à l'extérieur, en 2018.
C'est incroyable.
5 matchs joués, 0 points sur 15. incroyable. Ouais, c'est absolument hallucinant. Donc Burnley se maintient à la 7e place. Il conserve une avance assez considérable sur Leicester qui n'a pu faire que match nul. Et là aussi, il termine complètement en roue libre contre Southampton qui devrait descendre. Chelsea, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Conte dans la perspective du demi-finale de Ligue des Champions, excusez-moi, ça c'est dans les rêves d'Antonio Conte, la demi-finale de Coupe d'Angleterre qui sera contre Southampton dimanche, et il a fait jouer Giroud et Morata ensemble.
Oui, ça quand même, effectivement, c'est assez étonnant.
C'est assez étonnant, et il y en a un qui s'en est plutôt bien tiré, et l'autre qui s'est pas bien tiré du tout, et celui qui s'en est bien tiré, c'est Olivier Giroud, et celui qui s'en est pas bien tiré du tout, c'est Alvaro Morata, qui a loupé une énorme occasion dans un 1 contre 1.
Pourtant, il s'était fait un rush de fou.
On la revoit sur BFM Sport.
Pour venir dans ce 1 contre 1 et il finit tellement mal l'action, c'est affreux.
C'est terrible, hein. Mais de toute façon, il a la tête dans le sac. C'est un problème de confiance. C'est pas un problème de talent ou tout ce qu'on voudra. C'est un problème de confiance. Et on a vu sa réaction lorsqu'il a été sorti du terrain, mais avec raison d'ailleurs, parce qu'il était pas dans le jeu. Il avait eu également une autre occasion en première période où il peut passer le ballon également sur le côté gauche. Il ne le fait pas, il est trop individuel. Bon, il essaie de se sortir de sa mini crise personnelle comme il le peut, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, je pense qu'on peut penser qu'Olivier Giroud sera le joueur qui commencera.
Mais Philippe, ils sont organisés comment? Parce que si tu me dis Morata et Giroud, là, quand je regarde, il y a eu une défense à trois aussi.
Oui, défense à trois, absolument.
Et après, comment c'était au milieu?
Au milieu, il y avait dans la série des joueurs qu'on voit pas souvent, mais qui étaient là ce soir, il y avait Bakayoko.
Ah oui, oh là là, j'avais complètement oublié le
Bakayoko
joueur.
Qui est là.
Oh, mais Bakayoko, j'avais complètement oublié.
Donc si tu veux, tu avais une configuration où tu avais Rudiger, Cahill et Azpilicueta en défense centrale.
Ouais, ouais.
Ok. Emerson.
Et Moses, côté gauche.
Sur le côté gauche. Mm-hmm. Bakayoko et N'Golo Kanté,
devant la défense.
Terrain. Mm-hmm. Victor Moses en piston sur le côté droit. Pedro. Lui également qu'on voit pas trop
derrière les deux attaquants, quoi.
C'est ça, dans un rôle un petit peu plus libre au milieu de terrain, et puis Olivier Giroud, Alvaro Morata, une espèce de les deux tours jumelles, comment dire, dire les Twin Towers, tu sais, c'était une évocation.
Dis-moi, Philippe, ces derniers temps, quand on faisait petit bilan des Bleus, on s'était un peu aperçu qu'en Espagne, il y en a certains en ce moment qui sont pas au top top. Mm-hmm. Celui auquel on se raccrochait beaucoup, sorte de pilier au milieu, c'est Kanté. Quel genre de saison? Parce que c'est certainement un de ceux qui surnage le mieux dans cette équipe de Chelsea cette année.
Ah, ça sent.
Mais quel genre de saison il fait finalement dans ce club champion qui est tellement dans la déception cette année, mine de rien?
Écoute, je pense que Jérôme sera d'accord avec moi. On a vu quelques matchs de Chelsea ensemble, je crois, Jérôme, saison. Et Kanté a généralement toujours été l'une des satisfactions, l'une des rares satisfactions qu'il y en avait. Il y en a.
Mais satisfaction parce que quand une équipe va fait mal, finalement, c'est le 6 qui ressort. Ou
écoute, N'Golo, de toute façon, je pense qu'il a déjà, par rapport à son positionnement et à son style de jeu, de toute façon, il fera toujours des matchs régulier.
Oui.
Voilà. Et tu diras pas, oh, il est en dessous ou il est exceptionnel. Quand il est exceptionnel, c'est vraiment que le collectif est très fort.
On l'a vu exceptionnel et même dans un
collectif. Non.
En Ligue des Champions, il a fait des matchs par moment.
Oui. Non, sidérant. Il a un très gros volume de jeu. Il récupère des ballons. Il a cette intelligence-là, toujours bien placé. Il a une lecture du jeu dans l'anticipation qui est quand même au-dessus de la moyenne. Après,
L'énorme différence aussi, Jérôme, c'est qu'il a pas Nemanja Matić à ses côtés.
Oui.
Lorsqu'il faut que tu portes Cesc Fabregas sur tes épaules, bon, qui marche à 2 à l'heure et qui court à 1 à l'heure, c'est pas évident.
Ouais. Bakayoko qui cette année a confirmé qu'il était en surchauffe totale l'année dernière, comme je l'ai souvent dit, quoi.
Bakayoko, après, à sa décharge,
il a été utilisé à des postes un peu bizarres cette année, c'est vrai.
Absolument.
Des fois, il était un peu dans le milieu à 3, t'imagines, un peu plus haut côté gauche.
Soit qu'il était en surchauffe et que c'est pas le joueur qu'on a. Monaco a fait une vente extraordinaire. Mmh. Voilà. Pour finir, donc on se dirige là. Je le répète, même si ça peut sembler évident. Donc Arsenal et Chelsea hors Ligue des Champions.
Oui. On devrait aller vers Chelsea ça, encore une petite chance puisqu'ils sont qu'à 5 points de Tottenham. 7 points de Liverpool, ça fait beaucoup.
Ça pourrait ressembler à ça quand même.
Oui, absolument.
Les 10-15 dernières années, c'est pas dur à souvent.
Chelsea et Arsenal, Arsenal des champions ensemble.
Bon, déjà, on commence par Arsenal depuis 10 ans. Quand Arsenal, la dernière fois
Arsenal
qu'ils n'ont pas
été. Arsenal et Chelsea. Arsenal et Chelsea, je veux pas dire de bêtises, tu sais, mais la saison dernière,
non, Chelsea n'y était pas effectivement l'année dernière. Non, mais je parlais de. Commençons par Arsenal déjà.
Ah ben Arsenal, ça va faire deux saisons de suite, deux ans. Hein. Deux ans, c'est grave.
Mais Chelsea, ils vont y être en Ligue des Champions.
Cette année, pourquoi ils y seraient?
Ils sont à 5 points quand même.
Il reste 4 matchs.
Mais t'as le 5e fait pas
Ouais,
le
5e. Non.
Moi j'étais encore sur les tours préliminaires. Ah oui, non.
Mais c'est bien. Par contre, ils seront qualifiés direct en Europa League.
C'est génial.
Non, mais si j'insiste là-dessus, Philippe, c'est quand même une nouvelle fois, parce qu'on le dit souvent, mais la Première Ligue est vraiment un championnat particulier où la concurrence pour ces places-là est plus rude qu'ailleurs, incontestablement, que ça nous entraîne aussi dans la réflexion que c'est pas vital comme ça peut aller en Ligue des Champions comme ça peut l'être quand en France on dit que c'est mieux pour Lyon et Marseille d'y être, ou on n'imagine pas un des trois gros en Espagne pas y être. Il y a une vie sans Ligue des Champions en Angleterre.
Ben oui, et Chelsea l'a prouvé l'année dernière.
C'est ce que je veux dire. Et que voir deux équipes qu'on est habitué à voir dans les poules hors Ligue des Champions, c'est dire si ça se resserre là-haut. Liverpool avait été un petit peu l'absent ou le pas présent chaque année ces derniers temps. Là, eux, ils semblent devoir s'installer un peu.
Bah, Tottenham, c'est pareil, qui était
la baston est rude là-haut, quand même. Hein.
Tottenham n'est plus un intrus. Maintenant, Tottenham fait partie du top 4. Il n'y a absolument rien à dire. Et c'est même un peu surprenant de penser qu'ils n'ont que 68 points, qu'ils n'ont que 5 points d'avance sur Chelsea quand tu compares les saisons. Ouais. Tu dirais, c'est pas possible. Enfin, bon, eux, ils ont joué.
Daniel, tu parles de remplacement. Le remplacement, il est quand même léger, parce que ça tourne toujours avec les mêmes. Hein. Ouais, c'est-à-dire que là, t'as quand même 6 clubs.
Ouais, du moins surtout 5, parce que Arsenal est dans la difficulté, mais t'as 5 clubs qui tournent.
Non, mais si tu prends, on va dire, les 15 dernières années de Première Ligue.
Bien sûr.
À un moment, Philippe, nous avons
c'est toujours les mêmes.
Philippe, nous avons dû un peu Everton, il y a quelques mois.
Everton a fini dans les 5 premiers. Non, mais Newcastle a fini dans les 5 premiers.
C'est toujours les mêmes partout. Là, je vous parle juste de l'absence qui va être répétée pour Arsenal et pour Chelsea, qui n'était pas l'année dernière, qui est revenu cette année sans briller, qui va pas y être l'année prochaine. Et remplacement, parce que Liverpool avait été un petit peu absent et Tottenham, maintenant revient, et Tottenham avait plutôt été un invité qui venait pas souvent, quoi.
C'est pour ça que c'est plus un big four, c'est vraiment un big five, voire
un big five et demi.
Ouais, voilà, exactement.
En attendant le retour d'Arsenal, parce qu'Arsenal va revenir, ça ne se fait pas.
Avec Patrick Vieira, oui. Justement, alors transition parfaite. Donc ce matin,
c'est pour ça que je suis là.
Magnifique, Jérôme. Passe décisive de Jérôme, comme souvent.
Là, t'as juste à mettre le nez. Hein.
Voilà, c'est ce que je fais. Donc Vieira,
le cheveu comme Harry Kane.
Là, je vais avoir du mal.
Vieira Arsenal, possible ou pas, vrai ou pas, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir sur cette rumeur folle aujourd'hui en Angleterre?
Alors possible, oui. Probable. Je n'en sais absolument rien, parce que personne n'en sait absolument rien. Possible, comme il est possible que ça soit quelqu'un d'autre. Non, je veux dire, je freine tout le monde, parce que la rumeur est donc partie du Daily Mail et de Steve Stammer. C'est quelqu'un qui connaît bien le club, qui est là depuis très longtemps. Et le fait que le nom de Patrick Vieira ait été évoqué en interne pour choisir dans le cadre de la succession à Arsène Wenger, absolument, ça, il n'y a absolument rien à dire contre ça. Par contre, le fait qu'il arrive dès cet été pour remplacer Arsène Wenger, ça, non. Ça me paraît très, très improbable.
Ah ouais?
Oui.
Donc Wenger sera encore là en août?
Alors, écoute, ce qui me paraît...
Non, mais là, ça
Wenger
quand même,
continue?
Ça serait quand même incroyable, quand même.
Les derniers bruits, que je veux pas utiliser le terme d'info, parce que l'info, ça veut dire que c'est quelque chose qui est exact. Les derniers bruits qui me soient parvenus, et qui ne me semblent pas complètement fantaisistes, en tout cas les gens qui me les ont fait parvenir ne sont pas des fantaisistes, serait que même une non-qualification pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire une défaite soit en demi, soit en finale en Europa League, ne sonnerait pas le glas nécessairement des années Wenger à l'Emirates.
D'accord.
Ce qui me paraît un petit peu difficile à avaler, parce que j'ai entendu beaucoup d'autres bruits, et notamment le fait que quelques entraîneurs, et non pas des moindres, avaient été gentiment, on avait posé des questions, on avait fait poser, tu sais comment ça marche, hein, on fait poser des questions par des tiers, et on a parlé de beaucoup d'entraîneurs possibles, tous les entraîneurs possibles imaginables. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Quand tu vois le total de points aujourd'hui, on est à Arsenal à 54 points après 33 journées. Tu te rends compte? 54 points après 33 journées. C'est hallucinant. C'est ridicule. Ils sont aujourd'hui à 30 points derrière Manchester.
Mais pourquoi il est toujours intouchable là, j'avoue que j'arrive plus à comprendre.
Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'une part son bilan au niveau économique, j'entends hein, Daniel.
Ouais. Ah bah, il peut y avoir
pas
que ça.
Un propriétaire qui s'appelle Stan Kroenke. Et qui se tape du football, mais qui ne se tape pas de ses dollars. Il voit la valeur de son club. La valeur de son club a été soutenue. Wenger a fait cette chose qui est quand même admirable, qui est de faire que Arsenal s'est maintenu à un niveau très haut, c'était la Ligue des Champions, malgré le passage à l'Emirates. Ça, on lui en sait gré.
Juste petite parenthèse, ça veut dire que tu lui as expliqué à plusieurs reprises qu'il avait un portefeuille fourni pour recruter. Il ne le faisait pas. Donc en fait, au final, aujourd'hui, ça lui sert d'avoir par exemple été radin sur des mercatos. Aujourd'hui finalement, alors ça lui a pas ramené de bons joueurs et de titres, mais finalement ça lui sert pour récemment,
parce que c'est quand même ça lui en a fait perdre quelques autres également hein, parce que la liste de ceux qui ont été perdus,
c'était un bon
Arsenal, il va pas, le peuple Arsenal va pas cracher,
c'est incroyable quoi.
Si, alors moi la question que je me pose, c'est que bon, que je vais à l'Emirates comme journaliste, j'y vais également comme supporter, je vois le nombre de sièges vides autour de moi.
Ben oui.
Et ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ça. Et là, je crois qu'il y a un moment où il faut que ça craque.
Ben
mais si on revient au Caviera, excusez-moi, le fait est que Patrick, et je pense que Jérôme confirmera, si jamais Arsenal venait à lui demain, mais Patrick prend le premier avion et il débarque à l'Emirates, il s'en
ouais, bon,
immédiatement.
Après, et moi je suis
plus que ça. Non mais les joueurs là, je sais même plus qui y a à Arsenal, ils vont rester aux îles, tout ça.
Non mais aux îles,
ils en ont pas marre là.
Aux îles, il a signé, a prolongé.
Donc il a prolongé. Donc,
mais ils en ont pas marre, les mecs.
Lui restera. Et puis vu comment il a prolongé. Je t'annonce que il va pas partir. Ça c'est sûr, à moins qu'il fasse une Coupe du Monde exceptionnelle.
Combien de matchs il fait dans l'année?
Non mais aux îles c'est toujours pareil. Aux îles c'est le genre de joueur qui te laisse sur ta faim deux fois sur trois quoi. Et par contre il peut être tellement grandiose la troisième fois que tu te dis bon bah allez vas-y, on va retenter.
Il va surtout être grandiose avec l'équipe d'Allemagne comme d'hab.
Mais je suis d'accord avec toi. Après moi là ce qui m'inquiète dans ce que dit Philippe c'est que s'il n'y a pas de changement cette année, je vois pas. Et en effet, je constate comme toi, Philippe, si tu veux, le manque de passion quand t'arrives à l'Emirates.
C'est pas possible. Mais c'est un état dépressif. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas des footix, c'est des gens qui aiment pas le foot, qui aiment pas leur club. C'est pas ça.
Non.
C'est un état dépressif.
Lui de lui-même, il veut pas se barrer.
Désamour. Mais non, mais c'est ça qui est incompréhensible.
Je comprends pas.
C'est ça qui est incompréhensible. Et c'est pour ça qu'il faudrait. On va peut-être envoyer les mecs de Paris United là, peut-être qu'ils vont avoir des infos. Sur Arsenal là, parce que c'est pas possible.
Mais il y a faire Manchester United,
il y a des choses dans les petits papiers qu'on sait pas en interne, c'est pas possible, parce que là le fait de voir encore Wenger continuer un an, moi déjà je trouve que cette année c'est une perte de temps d'avoir continué avec
c'était
lui.
C'était l'année de trop, on est voilà. Tous d'accord là-dessus.
Là s'il y en a une deuxième, alors c'est dramatique, mais c'est même dramatique pour lui, parce qu'à l'arrivée tout ce qu'il a fait de bien, il faut pas l'effacer ses premières années, et ça dure.
C'est vieux,
et non,
ouais.
Mais aujourd'hui tu l'es, Daniel. Moi, je parle souvent avec des supporters d'Arsenal quand j'y vais. Ils en oublient même de ce qu'il a fait de bien avant. Parce que maintenant, c'est tellement...
C'est normal que t'oublies si t'as été bon entre la 6e et la 3e et que tu foires ton bac parce qu'au lycée, t'es un mauvais.
Et quand t'as la chance, et c'est vrai qu'Arsenal
est un club. C'est bien beau le passé, au bout d'un moment.
Non, mais Arsenal est un club, beaucoup d'entraîneurs, les trois quarts des entraîneurs, ils veulent l'entraîner. Parce que c'est comme ça. Mais
parce que c'est un beau club de Londres.
Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir. Alors je te parle même pas de Thierry Henry, parce que peut-être que c'est pas encore dans les papiers, puis qu'il est avec la Belgique et qu'il se développe et tout ça, mais un jour il y arrivera parce qu'il aime ce club. Mais quand t'as la chance d'avoir un mec comme Patrick Vieira qui est en train de faire ses classes et très bien. Parce que
oui, meilleure équipe du MLS. On a son équipe,
oui,
de
déjà parce qu'il a des bons joueurs, mais surtout il est fait bien jouer. Et c'est pas facile, parce que mine de rien, tout le monde te dit oh, le championnat, le niveau il est inférieur. Certainement qu'il est inférieur au niveau du championnat anglais. Mais par contre, il a une philosophie qui correspond exactement avec ce que Wenger il a mis en place ces dernières années, du moins avant ces 3-4 dernières années là. Et surtout que c'est un joueur emblématique d'Arsenal. Il faut qu'ils en profitent. Et là, dès le mois de juin. Après, je suis pas sûr. Attention, il faudra lui donner des garanties aussi à Pat, parce qu'aujourd'hui, il est quand même très bien à New York, et qu'il viendra pas en tongs, quoi.
Ouais. Philippe, je te dirais une chose, pour conclure, vas-y.
Oui, non, mais je te disais, tu parlais de, excusez-moi, On parlait juste, enfin, tu parlais de passer ton brevet ou de passer de sixième au troisième, etc., de louper ton bac. Mais je pense en fait, Daniel, pour Arsenal, c'est pas vraiment ça. Arsenal, c'est plutôt un groupe de rock qui sort une série d'albums absolument fantastiques pendant une dizaine d'années.
Ça, c'est
et puis
qui
après
plus,
te sort de la merde. Et puis après te sort de la merde et tu te dis et tu continues de l'acheter parce que tu te dis il y aura peut-être une bonne chanson ou deux bonnes chansons. Alors il y a toujours une ou deux bonnes chansons, un ou deux bons matchs. Mais au bout du compte, tu remets ça dans sa pochette et tu finis par ressortir le premier ou le deuxième.
Tu veux dire qu'Arsenal c'est Indochine?
Je pensais à autre chose qu'Indochine.
Je pensais pas vraiment à eux, moi, mais bon.
Alors, Indochine, ouais.
Non, je pensais pas vraiment. Je pensais quand même à quelque chose qui avait. Je pensais à quelque chose un peu plus classe qu'Indochine.
Ah, on pourrait.
Patrick Fiori.
Les Pink Floyd. À partir de 78.
Si tu prends dans les grands groupes classiques, je peux te dire que personne n'a écouté un seul album des Rolling Stones après Some Girls. Personne.
Oui.
Les gens les ont achetés. Mais
oui,
personne
c'est pas con ce que tu dis. Ouais. Il y a pas mal dans ces groupes-là qui effectivement pendant une dizaine d'années ont fait des chefs-d'œuvre et derrière.
Bah voilà. Ouais. Et puis on n'écoute plus.
Merci Philippe.
Eh ben merci les gars.
Merci bonne Philippe. Soirée. Tiens et puis quand Patrick Vieira sera à Arsenal, il pourra toujours dire ça.
Hein. Oh non, les matchs très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
C'est magnifique.
Franchement, ça marche.
C'est génial.
Non, franchement, j'en peux plus. On l'a écouté cette semaine.
Franchement, ça marche tout de suite dans l'after.
Oh les vieux, les vieux.
Tu lui fais écouter 10 fois de suite, 10 fois de suite, Isma.
Qui?
Roland. Il l'adore celle-là. C'est sa préférée.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
C'est l'after qui est là jusqu'à minuit, Jérôme Rotten, Daniel Riello, bien sûr, nous sommes là avec vous pour le quiz dans quelques instants, 32-16, inscrivez-vous pour le quiz, on a des bouquins à vous faire gagner, les nouveaux bouquins chaud, Messi, Cristiano Ronaldo de notre ami Chérif Guémour, le Tché, et puis des t-shirts de l'after, bien sûr, comme d'habitude. Mais tout de suite, c'est Football Story. Attention Football Story, messieurs, dames, dans une semaine pile, demi-finale de Coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille. Voilà. Et là, j'ai choisi, avec Jérôme Thomas, qui fait tout dans cette émission, en coulisses, de vous faire revivre une autre demi-finale mythique, la demi-finale de Coupe de l'UEFA 99, Marseille-Bologne. Vous vous en souvenez de celle-là? Il s'est passé des trucs totalement extraordinaires.
On en a beaucoup parlé.
Là, on parle du retour. Hein. On parle du retour Bologne-OM. Après 3 ans d'absence, l'OM revient alors en Coupe d'Europe. 4e en 98, l'OM joue la Coupe de l'UEFA. Avant cette campagne, il y a le fameux 0-4-5-4. Rappelez-vous, face à Montpellier, avec la 3e journée de championnat qui lance tout ça. Début de la saison. 32e de finale, les Marseillais éliminent le Sigma Olomouc des Tchèques. Voilà, ils étaient pas contents, les Tchèques, à ce moment-là. Mais ils se sont fait éliminer, c'est la vie. 16e de finale, première belle perf de l'OM, qui élimine le Werder Bremen en s'imposant 3-2 au retour. Retour au Vélodrome, ça passe. 8e de finale, 100% français. OM Monaco, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette confrontation.
Bien, c'est vrai.
But décisif à Marseille au retour de Titi Camara, messieurs, qui qualifie l'OM pour les quarts. La carte finale arrive le Celta Vigo. Victoire 2-1 à Marseille avec Florian Maurice on fire. 0-0 au retour. L'OM est en demi. Et là, on arrive à Bologne. Donc, tombeur de Lyon au tour précédent.
C'était pas Bologne, il faut recontextualiser, qui est dans la... Je crois une des très rares périodes où ils ont eu une bonne équipe.
Kenneth Anderson, BP Signori.
BP Signori.
BP Signori.
Voilà.
Qui est un manière de camp.
Ouais, c'est ça. Et Bologne a une bonne équipe. Ils avaient fait une bonne saison dans le championnat. BP Signori,
je me souviens comment il tirait les pénaltys.
Bien sûr.
D'élan.
Signori, c'était un très. Incroyable. Un très bon joueur qui ensuite est allé à la Lazio.
Oui, oui. Et là, attention, on a retrouvé les archives. Bon foot, le match aller était intense à Marseille, 0-0. L'OM n'a pas trouvé la faille, comme on dit, dans le milieu. Réaction à l'époque du coach Courbis.
On a été timide en première mi-temps. Bologne fait d'ailleurs une très bonne première mi-temps. Ou sur la physionomie de la première mi-temps, il méritait de mener, je crois, un but d'écart. Il faudra marquer impérativement à Bologne, sinon une qualification ne pourrait se faire qu'au pénalty.
C'est pas
merci
la même
coach. C'est vrai, sa voix a changé. Match retour, on est à direction Bologne.
En direction de Bologne par le train spécial de supporters, départ dans quelques minutes de la voie C.
On a de l'archive, hein. Au stade Renato Dell'Ara de Bologne, guichet fermé, ambiance de feu. Duga rate une occasion énorme à la 12e. Le défenseur de Bologne, Paramati, ouvre le score à la 18e. 1-0 pour Bologne. Et là, attaque-défense, l'OM ultra-offensif. On peut remercier Porato qui fait un grand match ce soir-là, qui sauve l'OM à plusieurs reprises. Il était dans les buts. Et là, à 3 minutes de la fin, Florian Maurice est accroché par le gardien.
Allez Lolo, ça passe, ouais. Ça passe.
Sauf que Laurent Blanc le retire. Il retire deux fois parce que bordel dans la surface, comme parfois ça arrive.
Parce que grosse pression.
Il
sur,
le retransforme. Il fallait quand même les avoir un partout. Et là, l'OM est qualifié. Coach Courbis.
Pour qui la première passe?
Pour notre président, et sans qui on n'aurait pas pu vivre ces moments-là. Parce que compte tenu des difficultés que nous avons pour mettre une équipe compétitive face à ces ogres italiens, on est très heureux ce soir.
Il se roulait
face
encore
à ces ogres italiens et tout. L'OM, ils avaient une sacrée équipe à l'époque. Hein.
Ouais, et à la fin du match,
il y a deux champions du monde. Enfin, t'as Pires, Blanc qui sont champions du monde.
Dugarry.
Il y a Ravanelli devant. Ils ont une sacrée équipe.
Sauf que le foot italien à l'époque domine totalement l'Europe.
Mais je suis absolument d'accord. Mais pas Bologne. C'est plus.
C'était pas Milan.
Grande époque de Bologne, mais l'équipe l'OM avait une sacrée équipe. À l'époque, en France, on avait encore des très belles équipes.
Sauf que à la fin du match, c'est là que le match, c'est là que ça part en live. Bagarre de près d'une demi-heure. Hein. C'est du grand n'importe quoi. La police anti-émeute fait son apparition sur la pelouse, ce qui n'empêche pas Patrick Blondeau d'asséner un coup de tête légendaire à un policier casqué.
Je vois une grosse bagarre à l'entrée du tunnel. Une énorme bagarre entre les joueurs des deux équipes. C'est terrible qu'on ne puisse plus assister à une rencontre de sport sans cette violence épouvantable.
Voilà, et là quand même mettre un coup de boule à un mec avec un casque.
C'est tiré chez la
Il
fallait quand même l'inventer. Luxin est ensuite agressé par des joueurs de Bologne. Qui c'est qui arrive à sa rescousse, tel Zorro, Christophe Dugarry, qui balance une rafale de coups de pied et de coups de poing. Duga qui dira plus tard, j'ai vu un gamin de 20 ans se faire agresser. Qu'auriez-vous fait à ma place? Bilan, 5 matchs de suspension pour Duga, 4 pour Amada Jambé, Ravanelli, Luxin également suspendu, 20 000 francs d'amende pour Coach Courbis. Jambé,
En plaisant.
20 000 francs d'amende pour Coach Courbis qui avait traité l'arbitre d'abruti. Roland expliquera ensuite qu'il avait dit non, en fait, j'ai dit abruti par la fatigue physique et nerveuse. Ah, il est fort ce coach. Voilà. Le fils de Roland est également suspendu de toute fonction dans le foot pour comportement incorrect et échange de coups. Bref, baston général. Et je rappelle qu'en finale, l'OM malheureusement battu 3-0 par Parme, un autre club italien.
Mais là, c'était la gamme au-dessus là.
Et là,
oui, c'est vrai. Et là, on a Sébastien qui n'était pas sur le terrain mais dans la tribune. Sébastien, bonsoir.
Salut les gars.
Salut Sébastien.
T'étais
salut,
au match aller ou au match retour?
Moi, j'étais au match à Marseille.
Ah, donc t'as pas fait la baston?
Bah, j'étais minot. J'étais un petit, j'avais 14 ans.
Et t'as un bon souvenir de ce match? Enfin, t'as un grand souvenir de ce match? Demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas rien quand t'as 14 ans.
Oui, non, franchement, c'était, bon, même s'il n'y a pas de but, c'est un match sans but, c'est un beau match. Puis t'as le match retour, bon, malgré la fin de match qui part en vrille totale, où tu te qualifies quand même, contre une équipe italienne, alors qui est certes Bologne n'était pas la plus grande équipe d'Europe, mais à une époque quand même où le foot italien dominait l'Europe à cette époque-là. Quoi.
On l'a dit, ils avaient une belle équipe, oui.
Ouais.
T'as des regrets sur la finale?
Ouais, t'as des regrets parce que le problème c'est que t'arrives avec une équipe un peu amoindrie parce qu'il y a des suspensions et des choses comme ça.
Ah, la baston, on en rigole aujourd'hui, mais ça les a quand même bien plombés.
Mais bien sûr, t'arrives en finale sur une jambe, tu te fais ouvrir par Parme 3-0 parce que autant sur la finale, il y a pas de débat possible. Je veux dire, Parme est une classe au-dessus. Il faut être honnête. Et voilà. Et en plus, tu te flingues ta fin de saison parce que derrière, tu perds contre Paris, tu finis deuxième derrière Bordeaux. Donc à la fin, t'as pas de Coupe d'Europe, tu finis deuxième. On se fait taper deux fois par Lens en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Donc à la fin, t'as rien. T'as une belle saison, mais derrière, t'as rien. T'as pas un titre, quoi.
Ouais, mais bon, vous aviez quand même vécu une sacrée saison, mine de rien.
Oui. Non, mais parce qu'il y avait déjà une très très belle équipe, comme tu l'as dit. Il y a quand même 3 champions du monde. T'as une très belle équipe, mais tu vis une très belle saison, mais malheureusement, à la fin, t'as quand même rien à mettre dans la salle des trophées, quoi.
Ouais, et puis après, bon, à Bordeaux, méritait de gagner au Parc à cette époque-là. Hein.
Donc,
ouais. C'est cadeau pour toi, Sébastien.
Ouais, ça t'arrange, Jérôme. Ça t'arrange. T'as raison. T'as raison, mon ami.
Non, mais sur la finale, c'est vrai que t'as beaucoup de joueurs suspendus. Amadab Jambé était suspendu, malheureusement. Donc, ça a joué dans l'équipe marseillaise.
Merci, enfin, Sébastien.
Plus que Dugarry.
Non, mais contre Bordeaux, attention, Dalton avait fait un énorme match.
Et Rabet sur l'intérieur.
D'ailleurs, on l'avait jamais revu aussi fort.
C'est vrai.
Le quiz tout de suite, c'est parti. Oh, messieurs, dames, je vous demande d'accueillir qui c'est qui est là. Bah, c'est Karim qui est là. Salut Karim.
Salut à tous.
Salut Karim.
Karim, je te laisse choisir entre l'équipe Rotten ou l'équipe Riolo.
Oh, j'hésite de pas. Bah, Daniel.
Très bien. Alors attends, ton concurrent est en train de partir là, il faut qu'on le retrouve vite fait. Ah. Attends, Sébastien, t'es toujours là ?
Ouais, je suis toujours là.
Tu veux faire le quiz, Sébastien ?
Ouais, allez, c'est parti les gars.
Allez, t'es avec vas-y. Jérôme, vu que vous êtes les meilleurs amis.
Exactement, Max. Vu qu'on est potes depuis 20 ans.
Ouais, alors, ouais, je vais te faire gagner.
Bah, justement,
mais
tiens,
ça va.
Le site officiel de l'OM décerne tous les ans un titre de meilleur Olympia de la saison.
Ah ouais.
Je vais vous donner une année et vous allez devoir me trouver le nom du joueur.
Oh, oh là là, ça va être dur.
Il n'y a qu'une.
Le mec qui a été le meilleur Marseillais de l'année, quoi.
Mais on n'a qu'une réponse.
Allez-y, proposez. On va démarrer facile. Hein. Tout le monde joue, bien sûr. Qui a été le joueur de l'année 2004 ?
2004.
Drogba.
Daniel, bien joué. Drogba, facile, finale de Coupe d'Europe à l'époque. Ouais, Drogba, 2000. Qui a été le meilleur joueur de l'année 2006 ?
Ribéry,
bien joué, Jérôme. Un partout. Qui a été le meilleur joueur de l'année 2010.
Valbuena.
Gignac.
Non.
Nasri.
Niang. Jérôme, bien joué. Quand Marseille est champion, ça fait 2-1.
Je suis pas connecté là dans le cerveau là. 2010.
Qui a été le meilleur joueur de l'année 2014?
Valbuena.
Non.
Non, il est parti. Gignac.
Bien sûr.
Karim, 2004. Bien joué. 2-2.
Oh là là.
C'est pas Karim qui a dit ça.
Si, c'est Karim.
C'est Karim, ouais. Il m'a égalisé. Putain, je suis à la rue complet là.
Qui a été le meilleur joueur de l'année 2017?
Tovin.
C'est nous.
Karim, il est là, Karim.
Mais non, je l'ai dit aussi.
Ah.
Non, je l'ai dit avant.
Karim l'a dit avant.
Jérôme, tu joues contre l'auditeur, je ne suis pas là dans le coup, là.
Attention,
je suis parisien.
Bien joué, Karim. Qui a été le meilleur joueur de l'année 2003?
Ravanelli.
Van Buiten.
Van Buiten, joli, Jérôme. Van Buiten.
J'ai envie de lui donner la victoire.
Mais non, téléphone de rien. 3-3.
Attends, c'est pour ça que je te donne la victoire, Jérôme. C'est magnifique. Bravo.
Qui a été le meilleur joueur de l'année 2005?
2005?
J'ai passé dans l'after.
Il est passé dans l'after.
Ouais. Dimeco. Hop, n'importe quoi.
Bey.
Habib Bey, Jérôme, bien joué.
C'est une démonstration.
T'es en feu, putain.
Il reste 1 minute 30. Attention, qui a été le meilleur joueur de l'année 2009?
Gignac.
Non.
Ribéry.
Un milieu de terrain.
Nasri.
Pardon?
Chérou.
Karim, bien joué, 4-4.
Oh là là, mais c'est pas vrai, mais je joue avec qui, moi?
Bah, t'es avec l'autre. Mais tu joues
avec Marseillais, en plus.
Mais je te laisse jouer contre Karim, moi.
Tout va se jouer sur ce dernier nom, messieurs. Tout va se jouer sur ce dernier nom.
Je peux pas le perdre, mais toi, t'es à la rue.
Complet, je te laisse tout faire.
Qui a été désigné meilleur joueur de l'OM de l'année 2002? Attention, c'est un gardien de but.
Porato.
Rougneux. Karim est exceptionnel.
Franchement, Karim, il mérite. Il a été énormissime.
Védran Rougneux, bravo. On t'envoie les.
Énormissime.
On va t'envoyer énormissime. Les deux bouquins de Shérif Guémour sur Messi et Ronaldo.
Voilà, bravo, Karim.
Je vous les montre.
Génial, merci à vous.
Messi Ronaldo. Le mien arrive, donc si il est arrivé à temps, je te l'envoie avec.
Ah, merci, Jérôme.
De rien.
Sébastien, un t-shirt de l'after également pour toi. C'est cadeau, les gars. Merci d'avoir joué avec nous. Védran Rougneux. J'ai oublié
celui-là. Oh là là, Rougneux, bah non, moi j'ai pas oublié.
Si, à chaque fois qu'en fait les noms sont tombés, j'ai ah oui, mais on n'avait pas du tout connecté dans la tête pour que ça vienne.
La plus belle, c'est Van Buiten.
Oui, mais quand tu l'as dit, c'est magnifique. Mais
oui,
j'ai
mais
pensé,
après, tu te souviens.
Ah oui, évidemment, oui, je me souviens qu'évidemment, bien sûr. Mais
qu'est-ce que je leur ai mis? C'est pour ça, c'est pourquoi je me souvenais, parce que c'est ma période.
J'ai
mis tellement de bouillon.
Époque Qualify Airways.
Ah ouais, ils ont pris des crochets, des trucs.
Demain soir, l'after sera là dès la fin des matchs de Ligue 1, bien sûr. Jérôme, Daniel, bonne soirée.
Ciao.
Et à demain dans l'after.
Bye.
C'était l'After Foot sur RMC avec l'école Sikaflex. Sikaflex, 50 ans de réflexe.
RMC, le super football show, l'After Foot.